Prions ensemble. Seigneur, nous nous tournons vers toi ce matin, conscients de tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes conscients que tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as, Seigneur, fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ et tu nous donnes déjà, dès maintenant, la certitude de la vie éternelle. Et c'est pour nous, Seigneur, un sujet vraiment d'action de grâce, un sujet de joie. Et merci aussi parce que dans ta bonté, tu nous donnes ta parole. Seigneur, et tu veux nous parler avec cette parole, tu veux nous instruire avec cette parole. Tu veux, Seigneur, que nous puissions la recevoir, tu veux t'adresser à nous. Et c'est pour ça que nous voulons te demander vraiment de nous rendre capables de comprendre ta parole ce matin. Aide-nous. Nous ne sommes pas capables avec nos esprits humains, avec nos compétences humaines. Aide-nous, Seigneur, ce matin à comprendre. Aide-nous à recevoir, aide-nous aussi plus tard à mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à ce que ces moments ne soient pas des moments de distraction, des moments d'embêtement, mais des moments où vraiment nous allons recevoir ce qui vient de toi. Nous voulons vraiment t'exalter, te louer et te recommander ces instants, afin que ton esprit, Seigneur, dirige toutes choses parmi nous. Amen. Nous allons faire deux lectures ce matin. Deux lectures dans le Deuxième Testament, donc dans le Nouveau Testament. La première lecture dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16, où il est écrit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la charité, la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La deuxième lecture, dans 2 Timothée, chapitre 3. Et nous allons commencer à lire donc le chapitre 3 à partir du verset 10, et nous allons continuer dans le chapitre 4 jusqu'au verset 5, donc 2 Timothée 3, 10. C'est donc l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et qui lui dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Nous sommes nombreux à connaître cette chanson de France Gall, et c'est une chanson qui a été évidemment beaucoup chantée dans la semaine que nous venons de vivre. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Alors, on le sait, en fait, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Il a simplement rendu l'école obligatoire pour tous. Alors qu'avant, elle était réservée à une élite, Charlemagne a fait en sorte que tout le monde doive maintenant passer par l'école. Et dans la chanson de France Gall, qui vous vient en tête maintenant, tellement tout le monde la connaît, dans cette chanson, France Gall, fait part de, et c'est pas en fait elle qui l'a écrit, c'est son papa, mais c'est elle qui l'a chanté, fait part de toute la difficulté que Charlemagne nous aurait donnée. Il faut apprendre le français, participe passé, participe présent, le subjonctif, il faut apprendre les maths, il faut apprendre la géographie. Et en fait, à un moment donné, dans cette chanson, il y a cette expression qui revient à plusieurs reprises, que de travail, que de travail. Et dans la chanson, elle dit clairement qu'en fait, et c'est clairement dans le chant, il aurait bien fait de faire autre chose, Charlemagne, plutôt que nous inventer l'école, il aurait mieux fait de faire autre chose, il nous a bien embêtés. Alors, c'est une chanson qu'on aime bien, parce que ça détend les enfants, ça détend tout le monde, et tout le monde se dit « Ah oui, l'école, c'est pas facile » et tout ça, et voilà, on se rend tous compte que c'est le cas. Et en même temps, à l'heure d'aujourd'hui, plus personne n'oserait, en tout cas quand on est adulte, n'oserait critiquer l'importance de l'école. Aucun adulte normalement constitué aujourd'hui n'oserait dire que l'école obligatoire, c'est une folie. Personne n'oserait dire ça, parce que le fait d'avoir rendu l'école obligatoire a littéralement transformé les sociétés. Et ce que nous sommes aujourd'hui, notre société telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est à cause du fait que l'école soit rendue obligatoire. L'école permet à des enfants de devenir des citoyens éclairés, libres, qui comprennent le monde, qui savent de quoi on parle, qui sont capables de s'engager librement dans la société. L'école permet à des jeunes de développer leurs compétences, leurs capacités, de développer leurs potentialités, de devenir eux-mêmes. Hein, comme on dit, deviens qui tu es. Grâce à l'école, quand on apprend plein de choses, on peut devenir soi-même. Quand on apprend à compter, quand on apprend à lire, quand on apprend à comprendre, quand on apprend à structurer, l'école est un vecteur puissant d'émancipation. Quand on n'a pas la connaissance, quand on ne sait rien, on est complètement assujetti à ce que les gens disent. C'était le temps d'avant. Quand on n'était pas instruit, on ne savait rien sur rien. Vous ne savez pas lire un document, vous ne savez pas compter, vous ne savez rien faire. Ben, vous êtes littéralement sous l'emprise des gens. L'école lutte contre les inégalités sociales. Grâce à l'école, chacun peut théoriquement avoir les mêmes chances de faire le métier qu'il veut. De réussir, de faire des études, ben ça met à peu près tout le monde sous le même pied d'égalité, quel que soit le milieu dont on vient. L'école est le moyen par lequel on apprend des choses essentielles, on a des savoirs, on a une connaissance du monde, et l'école est quelque chose qui remplit et qui aide chacun à s'émanciper, à grandir et à entrer dans sa vie, parce qu'à l'école, on n'apprend pas qu'à lire, à compter et à écrire. On fait des excursions, on va voir des vaches, on va voir des aquariums, on va voir... et on découvre le monde. C'est la partie préférée de Madame Myriam. Elle aime beaucoup ça, les excursions. Alors, elle doit conduire ses enfants et elle met son petit gilet jaune. Et ouais, c'est fantastique. Freddy aussi est un ancien instituteur. Voilà. Donc, l'école est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, tout le monde sait combien l'école est importante. Alors pourquoi c'est important de fixer ça ? C'est parce que en soi, la vie chrétienne, c'est une vie d'apprentissage. Et on pourrait dire que la vie chrétienne, c'est une école. Et on pourrait le dire, puisque c'est aussi important de le savoir, l'Église, c'est une école. L'Église, c'est fondamentalement un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où l'on se forme, c'est un lieu où l'on apprend, c'est un lieu où on grandit. C'est un lieu où on découvre des choses, c'est un lieu où on fait, où on reçoit ce qui est nécessaire pour grandir. Le jour où nous sommes venus à Christ, chacun de nous, le jour où nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été automatiquement inscrits à l'école de Dieu. Le jour où nous avons cru en Jésus, nous n'avons pas juste été sauvés comme ça pour nous asseoir sur une chaise, nous sommes devenus des disciples, nous sommes devenus des étudiants, nous sommes devenus des élèves, nous sommes devenus des gens qui doivent apprendre un certain nombre de choses et qui doivent grandir. On pourrait dire que lorsque nous avons cru en Christ, nous avons reçu une carte d'étudiant. Et c'est automatique, c'est tous ceux qui croient en Christ, on leur donne. Et ce n'est pas une carte d'étudiant pour avoir des réductions au cinéma, au McDo et tout ça, c'est une carte d'étudiant pour que tu saches et que tu te rappelles que « Oh, je suis dans un processus où j'ai plein de choses à apprendre ». Je vais marcher à la suite de Christ et Christ va m'apprendre des choses. Je vais être dans l'Église et je vais apprendre des choses. Je vais vivre ma vie chrétienne et je vais apprendre des choses. Par définition, un chrétien est un disciple de Christ et par définition, un disciple est un élève, un étudiant du maître. Alors, dans notre mentalité humaine ou des enfants, quand ils n'ont pas encore le moyen de le comprendre, l'école, c'est un fardeau. Donc effectivement, quand on réveille un enfant de 6 ans, 7 ans pour dire « Allez, il faut aller à l'école », il souffle. Mais quand on le retrouve à 29 ans et qu'on lui dit « Ah, ben l'école », il a dit « Heureusement qu'on a été, j'ai appris plein de choses, je sais compter, je sais… » Voilà. Dans notre mentalité, l'école, c'est un fardeau. Mais en réalité, l'école, c'est une grâce. L'école, c'est un cadeau. L'école, c'est extraordinaire. La société, les sociétés occidentales que nous avons sont ce qu'elles sont grâce à l'école. Et dans les pays où l'école n'est pas répandue, on sait les difficultés que ça cause. Être étudiant à l'école de Christ, c'est aussi un privilège du salut. Le salut, ce n'est pas juste d'être pardonné, ce n'est pas juste d'avoir la vie éternelle, c'est aussi que tu reçois un minerval pour aller à l'université. Mais le minerval est gratuit. Tu ne dois rien payer. Et tu es automatiquement inscrit et hop, là, c'est parti. Tu dois suivre des cours, tu dois apprendre, tu dois grandir et en avant. Tu n'es pas sauvé juste comme ça pour regarder les nuages et pour dire « Oh, que c'est beau, oh Jésus, tu m'as aimé, tu m'as sauvé ». Tu es inscrit pour avancer et pour grandir. Et certains chrétiens, parfois, ne ressentent plus cette dimension-là. On pourrait dire qu'ils sont en décrochage scolaire. Ils ne se sentent plus en train d'apprendre. Ils ne se sentent plus en train de grandir. Et pourtant, ce qui rend la vie chrétienne très dynamisante, c'est le fait de se sentir en train de grandir, se sentir en mouvement de croissance. La vie chrétienne est passionnante quand on peut dire « je sens que je grandis, je sens que j'apprends des choses, je sens que je comprends mieux la parole, je sens que j'arrive mieux à prier, Je sens que quand je suis dans des situations, j'arrive mieux. Alors là, la vie chrétienne est intéressante, elle est passionnante parce qu'on se dit « Waouh, j'apprends des choses, je vais de mieux en mieux ». Mais lorsqu'on n'est plus là-dedans, la vie chrétienne commence à s'affadir. Et on commence à être là, on vivote, on est présent, on se dit qu'on va venir et tout ça, mais on stagne. Et quand on stagne dans la vie chrétienne, en fait, on ne stagne jamais. Il n'y a pas de point mort dans la vie chrétienne. Dès qu'on s'arrête, on recule. C'est comme sur un tapis. Soit on avance, soit on recule. Et parfois, il nous arrive de nous sentir dans cela. Et nous devons faire un bilan de se dire, est-ce que je suis toujours bien un étudiant, moi ? Est-ce que je suis toujours bien là, présent en cours ? Ou est-ce que je fais signer les autres à ma place ? Ou est-ce que je fais des... Est-ce que je suis bien en cours ? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine sur la parole de Dieu que je ne savais pas? On peut se demander, qu'est-ce que tu as appris cette semaine sur la Bible que tu ne savais pas? Dieu, je ne savais pas. J'ai découvert ça, je ne savais pas. On pourrait dire, qu'est-ce que tu as appris d'important sur la vie chrétienne le mois passé? Le mois de juillet, c'est quand même 31 jours, on a le temps. Sur 31, du 1er au 31 juillet, qu'est-ce que tu as appris sur la vie chrétienne? Quelle est la chose que tu as découvert, ce qui t'a... Ah. Alors, on peut prendre toute l'année. Sur l'année 2023, par exemple, ou 2024, qu'est-ce que j'ai appris sur Dieu? Qu'est-ce que j'ai découvert sur Dieu en 2023? Si je devais mesurer mon niveau de croissance il y a 2 ans et maintenant, est-ce que je suis en train d'avancer ou est-ce que je suis en train de reculer? Ou est-ce que je suis en train de ne rien faire du tout? Quel pas est-ce que j'ai fait cette année? Nous sommes des étudiants. Et si nous arrivons à la conclusion que « mais moi, je n'apprends rien » ou « je n'ai pas l'impression de me sentir en train d'apprendre », ah ben hop, sonnette d'alarme. Il y a un truc qui cloche dans ma vie chrétienne. Et peut-être que ça explique parfois notre manque de zèle. Parce que certains d'entre nous, parfois, nous manquons justement de cette flamme sacrée parce qu'on n'est plus là-dedans. Et qu'on a l'impression qu'on fait tout le temps le même, qu'on tourne toujours autour du même rond-point. Et donc, effectivement, le négatif appelle le négatif. J'apprends plus rien, je me donne moins, je m'implique moins. Et puis, ça continue comme ça. Nous sommes des personnes qui, en tant qu'humains, nous pouvons être réticents à apprendre. On peut être réticent, on peut ne pas avoir envie d'apprendre. Pourquoi ? Par exemple, à cause de la paresse. Apprendre demande un effort. Apprendre demande un effort. Il faut un effort pour comprendre. Il faut un effort pour assimiler les choses. Il faut un effort pour recevoir. Il faut un effort pour mettre en pratique ce qu'on apprend. On sait qu'à l'école, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Alors on te dit, voilà, il y a la formule F de X égale machin, machin, et puis il faut faire les exercices. Mais il faut déjà comprendre ce que le prof dit dans la théorie et puis il faut le faire. Ça demande un effort. C'est pas facile. Il y a parfois cette paresse que nous avons et qui nous empêche d'avancer. Parce qu'on se dit, oulala, mais si je commence à ouvrir le livre de Lévitique, je vais rien comprendre, je ne sais même pas à quoi ça sert, je ne sais pas qui c'est le camarade qu'on appelle machin, c'est des noms à ne pas en sortir. C'est dur. On dit, oh là là, ça va être compliqué, parce que si on dit qu'il faut faire ceci et cela, moi je n'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai plein de trucs à faire, et donc... On a une certaine paresse à avancer. Certains chrétiens, même, ont abandonné l'aventure de la prière parce que la prière, c'est difficile. N'importe qui prie sait que prier, c'est difficile. Avoir une vie de prière personnelle, c'est difficile. Tu te lèves le matin, tu es déjà encore dans l'univers, dans l'espace. Tu te mets à genoux, tu commences, Seigneur, merci. Bon, merci pourquoi ? Oui, merci parce que je suis réveillé, oui, je ne suis pas mort cette nuit, merci. Merci pour ça, merci pour ça, et puis qu'est-ce que je demande maintenant ? Et puis tu as ta pensée qui va ailleurs, il faut revenir. Ah oui, non, Seigneur, pardon, excuse, je voulais parler de ça, je disais... C'est difficile la prière, c'est un effort. Certains chrétiens se disent, ben, la Bible c'est compliqué, ou alors la communion fraternelle, être avec les frères et sœurs, c'est compliqué, il faut supporter les uns les autres... Je suis fatigué. Cela nous arrive très souvent. Alors, une autre raison qui fait que parfois on n'apprend pas ou qu'on est résistant à l'enseignement, c'est ce qu'on appelle l'opiniâtreté. Donc, l'opiniâtreté, c'est être têtu, être buté, ne pas vouloir apprendre, ne pas vouloir changer d'opinion, ne pas vouloir changer de façon d'avancer. Parce qu'en fait, apprendre, c'est toujours changer d'avis. Apprendre, c'est comme la science. On dit que la science n'est pas figée. Ce qui est scientifique, c'est ce qu'on peut un jour changer. On a découvert ça, ben maintenant on a découvert autre chose, donc on avance. Ben dans les connaissances, c'est la même chose. Au fil des années, on apprend des nouvelles choses. On découvre des nouvelles choses. On doit accepter de changer d'avis, de changer d'opinion. Hein, vous demanderez à nos institutrices, instituteurs, mais désolé, hein, aujourd'hui c'est pour votre poids. Mais si vous avez un élève de première primaire qui vous demande « Madame, vous venez de nous dire que 1 plus 1 égale 2 ». Et imaginons qu'on fait 3 moins 5, ça fait combien ? Ah ! Alors imaginez l'institutrice qui commence. Ah, 3 moins 5, je vais vous expliquer. 3 moins 5, on enlève une unité, puis on arrive à 0. Et puis qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben on descend, moins 1, moins 2. Mais ils vont tous être perdus. Ils ne vont plus rien comprendre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Donc au début, on t'explique simplement les calculs positifs. Et puis, tu arrives au secondaire et puis on te dit « Ah oui, mais il y a des chiffres négatifs. » « Ben, c'est pas vrai. » Madame Myriam ne nous a jamais dit ça, ce n'est pas vrai. Je suis désolé. Si, je t'assure, il y a des chiffres négatifs. Jusque où ? Jusqu'à l'infini. « Ah non, ça, je n'y crois pas. Il ne faut pas commencer. » Donc, on doit accepter de changer d'avis quand on apprend. On doit être flexible. On doit accepter d'être réceptif à ce qu'on nous dit pour pouvoir apprendre. Cette semaine, j'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo d'une jeune fille qui apprend à conduire à côté de son instructeur. Peut-être que vous l'avez vu, son instructeur. Et alors, donc, elle est en train de conduire, et son instructeur à côté d'elle, et ils sont sur le périphérique de Paris. Et alors, elle est en train de conduire, et elle est toute agacée, toute énervée. Elle dit « Oui, c'est vraiment n'importe quoi, le gars vient de me couper la priorité, il vient de rentrer. » Et l'instructeur, qui est quand même instructeur d'auto-école, désolé, lui dit, mais non, sur le périphérique, en fait, les voitures qui rentrent ont priorité. Elle dit, mais non, c'est n'importe quoi, je suis sur une autoroute ici. Mais non, c'est pas une autoroute, c'est le périphérique. Oui, c'est n'importe quoi, il se prend pour qui celui-là, il me rentre dedans et tout le bazar. Et à un moment donné, ils arrivent devant le panneau avec la croix qui dit priorité de droite. Et elle continue encore à nier et à dire, non, je ne suis pas d'accord, je suis sur une autoroute. Mais c'est quand même incroyable, ça. Tu payes un bonhomme pour qu'il t'apprenne à conduire. Donc théoriquement, il est censé savoir de quoi il parle. Il te montre le panneau et tu n'es toujours pas d'accord de comprendre que tu n'es pas sur une route prioritaire. Parfois, nous ne sommes pas ouverts à recevoir, à changer, à grandir. Et c'est pour ça qu'il y a ce passage important qu'on a déjà beaucoup évoqué, d'Ésaïe 50, verset 4, dans lequel, c'est un des chants du serviteur, dans lequel le serviteur dit « Le Seigneur éveille, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Dieu m'apprend à écouter comme écoute un disciple. Dieu m'apprend à être à l'écoute de ce qu'il m'enseigne comme un disciple. Alors un disciple, quand il écoute avec soif. Il veut savoir, il veut comprendre, il veut grandir. Un disciple, il écoute avec soumission. Il n'est pas là pour faire un débat d'idées avec son maître, le disciple. Il n'est pas là pour enseigner le cours à son prof. Il reçoit ce que son prof lui dit. Le disciple écoute avec humilité. Rappelez-vous que la prière que nous connaissons, dominicale, « Notre Père qui es aux cieux », cette prière, Jésus l'a enseignée parce que les disciples lui ont demandé « Apprends-nous à prier ». Donc le disciple, il a envie de savoir, il pose des questions à son maître. Il se dit « Seigneur, comment est-ce qu'on fait pour prier ?» Et très souvent dans l'Évangile, on voit que les disciples demandaient à Jésus des explications après les enseignements publics. « Seigneur, ça voulait dire quoi cette parabole ? Qu'est-ce que ça signifiait ça ?» Et donc il les prenait à part et il leur expliquait. Le disciple veut apprendre des choses. Il a la soif de grandir, il a la soif d'aller de l'avant. Et le disciple n'a pas seulement envie d'apprendre des trucs pour mettre dans sa tête, parce que la vie chrétienne ne consiste pas à retenir des choses pour se gargariser, de dire « Ah oui, je connais tel verset », tout ça. Le disciple, bien plus, il veut apprendre à avoir le cœur de son maître, avoir les vertus de son maître. Le disciple va dire « Seigneur, apprends-moi à pardonner. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas le faire. Je te dis, Seigneur, apprends-moi à pardonner. » Fais-moi grandir pour que j'apprenne à pardonner. Seigneur, apprends-moi à accepter ta volonté. Aide-moi à être quelqu'un qui accepte ta volonté. Seigneur, apprends-moi ce que c'est la sanctification. Parce que je ne comprends pas ou parce que je n'y arrive pas, apprends-moi, Seigneur. Aide-moi à comprendre, aide-moi à grandir, aide-moi à aller de l'avant. Ou on pourrait dire, Seigneur, apprends-moi à comprendre la doctrine du Saint-Esprit. Je suis chrétien, je crois en Jésus, mais le Saint-Esprit, je comprends pas. C'est quoi? De quoi est-ce qu'on... Apprends-moi, Seigneur, j'ai envie d'apprendre. Seigneur, apprends-moi comment est-ce qu'on doit te servir. Apprends-moi tel aspect de ta parole. Apprends-moi à être un bon mari, selon ta parole. Apprends-moi à être une bonne épouse, selon ta parole. Le disciple, il a envie d'apprendre. Et tant qu'il n'apprend pas, il est insatisfait. Et tant qu'il n'apprend pas, il est attristé. Et nous, aujourd'hui, si on devait faire cette prière, quelle serait notre prière? Qu'est-ce que tu demanderais d'apprendre à Dieu? Qu'est-ce que tu veux apprendre aujourd'hui? Oh non, ça va, je sais tout. Bon, ça va. Tu peux déjà monter au ciel, on te rejoint. Mais si par contre tu as des réponses, ah ben oui, ça j'aimerais bien apprendre, tel aspect de la Bible, je n'en comprends rien. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses extrêmement complexes. Je comprends rien. J'aimerais apprendre. Ou tel aspect de l'amour de Dieu, je ne connais pas. Les proverbes nous disent ceci. Un cœur intelligent cherche la science. C'est-à-dire la connaissance. Un cœur intelligent cherche la science. Quand on a un cœur intelligent, on veut grandir, on veut connaître, on veut comprendre. Il n'y a que la folie qui peut nous faire dire « je sais tout » ou qui peut nous faire dire « je n'ai rien à apprendre de plus ». Le cœur intelligent cherche à comprendre, cherche à savoir, cherche à aller plus loin. Et nous devons tous avoir des cœurs intelligents, n'est-ce pas, pour grandir et aller de l'avant. Alors le texte d'Éphésiens 4, on ne va pas s'arrêter des heures et des heures sur ce texte, mais ce texte nous parle quand même des finalités de notre croissance. Dieu veut que nous grandissions, pas pour rien. Le texte d'Éphésiens 4 nous dit, premier objectif, objectif central de notre croissance, c'est ce qu'il appelle, il dit qu'il a donné des dons à l'Église pour le perfectionnement des saints. Nous recevons des choses pour nous perfectionner. Dieu veut que nous puissions nous perfectionner. Que nous soyons un nouveau converti, que nous soyons un converti de 40 ans, 50 ans, Dieu veut que nous puissions participer à ce perfectionnement, d'aller de l'avant, de pouvoir nous perfectionner dans la connaissance, dans la foi, dans la prière, de nous perfectionner, de grandir. Et le texte d'Éphésiens 4 dit que le perfectionnement a une finalité, c'est l'œuvre du ministère. On ne se perfectionne pas juste comme ça, on se perfectionne aussi pour être de plus en plus utile à Dieu dans le service. Je veux que tu me fasses grandir, Seigneur, pour que je puisse mieux me mettre au service des autres, pour que je puisse mieux te servir. Pour rappel, Dieu nous donne à tous d'être à son service. Il n'y a pas seulement des gens qui sont serviteurs de Dieu, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et nous avons tous reçu des dons, des appels, des ministères que nous devons mettre au service. Et donc, lorsque nous nous perfectionnons, nous devenons de plus en plus utiles à Dieu et aux autres. Lorsque nous grandissons, nous pouvons au mieux participer à la croissance du corps du Christ. Lorsque nous servons dans l'évangélisation, lorsque nous servons dans l'hospitalité, lorsque nous servons en priant pour les gens, lorsque nous servons dans la louange, lorsque nous servons à l'école du dimanche, eh bien, nous participons à la croissance du corps de Christ. Et cela implique notre perfectionnement personnel. On ne doit pas juste servir pour servir, on se perfectionne. Et en se perfectionnant, on se met au service des autres. Et puis le texte d'Éphésiens 4 dit qu'une finalité de ça, c'est l'édification du corps de Christ. Quand tous les chrétiens se perfectionnent, alors le corps de Christ grandit, l'Église grandit. Autre objectif cité dans le texte, afin que nous arrivions à l'unité de la foi. Pour que nous en arrivions à grandir tous ensemble, dans la connaissance de Dieu et à expérimenter l'unité de la foi et également, dit le texte, la connaissance du Fils de Dieu. Pour que tous ensemble nous grandissions et que tout doucement nous en arrivions mieux à connaître le Fils de Dieu. C'est-à-dire l'objet de notre foi, notre Sauveur dont Guy nous a parlé la semaine passée. Eh bien, que nous grandissions tous dans la connaissance du Fils de Dieu. que pas à pas nous connaissions mieux le Fils de Dieu, Jésus, celui qui est l'empreinte du Père, la révélation parfaite du Père, et que tous ensemble nous puissions parvenir à l'unité dans la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Et puis le texte dit que nous arrivions à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, à que nous devenions des chrétiens matures, qui sont équipés, qui sont armés, qui peuvent avancer. Et lorsque nous vivons tout cela, l'Église, le peuple de Dieu, devient la manifestation de la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, ça veut dire qu'on y sent une dynamique de croissance, une dynamique où on apprend des choses. On sent une dynamique dans laquelle on va de l'avant. Quel bonheur pour un enseignant quand il sent que ses élèves comprennent, apprennent et qu'ils ont envie. Ah oui, j'ai pas compris, madame, oui, je te réexplique. Et puis l'autre veut, et puis l'autre, ah ça va, il s'améliore. Ma classe avance. Eh bien, Dieu va avoir le même plaisir avec nous. De dire, ok, ils sont en train d'avancer, ils sont pas tous en train de ne rien faire, ils sont en train d'avancer. Le texte dit, pour que nous ne soyons pas instables et désorientés par toutes sortes de doctrines. Que nous ne soyons pas des chrétiens comme ça, qui ne savent rien à rien, qui écoutent tout et n'importe quoi sur Internet et qui ne savent pas discerner. Ah oui, un tel a dit ça. Que nous soyons des gens solides, qui comprennent les choses, qui savent où il faut aller. Et le texte termine magnifiquement bien, mais que nous professions la vérité dans la charité et que nous croissions à tous égards en Christ, le chef du corps, que nous croissions vers Christ, tous ensemble. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, dans la vie chrétienne, il y a différentes sources d'apprentissage. Première source d'apprentissage, c'est l'enseignement. L'enseignement. Alors, dans l'enseignement, il y a l'enseignement général et puis il y a l'enseignement individuel. Vous avez lu dans 2 Timothée chapitre 4, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, qui est responsable de l'église d'Éphèse. Et vous avez vu 2 Timothée 4, 1 à 2. Vous avez vu ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Il lui dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son royaume, de son apparition et de son royaume. » Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. On peut revenir au verset d'avant. Merci. Vous voyez comment il lui dit pas, ah, Timothée, et si t'enseignais un petit peu, si les gens ont envie, si t'as le temps, si t'as envie. Il lui dit, Timothée, je t'en conjure, je t'en supplie devant Dieu. Et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. L'enseignement de la parole dans l'Église, ou la prédication de la parole dans l'Église, ce n'est pas une habitude que nous avons créée entre nous pour se dire « qu'est-ce qu'on va faire le dimanche matin ?» On va envoyer un gars pour parler 40 minutes, comme ça on remplit le temps et puis c'est fini. Non. C'est le plan de Dieu que l'Église soit structurée autour de l'enseignement et de la prédication de la parole, afin que nous puissions tous ensemble grandir. Et l'idée, encore une fois, ce n'est pas de remplir notre tête, mais c'est de toujours plus mieux connaître Dieu tous ensemble, mieux mettre en pratique sa pensée. L'idée, ce n'est pas de nous renseigner, nous donner des informations comme ça, à gauche, à droite. L'idée, c'est davantage que nous puissions être transformé dans notre intelligence, le renouvellement de l'intelligence, comme dit la Bible, changer de façon de penser, grandir, pour que ça affecte durablement nos vies. L'apôtre Paul avait des expressions très particulières qu'il disait à Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 11, il dit par exemple, 1 Timothée 4, verset 11, il dit à Timothée, « Déclare ces choses et enseigne-les. » Une autre version dit « Affirme ces choses et enseigne-les ». Vous êtes d'accord que quand on lit ça, on comprend « Timothée, demande aux gens s'ils sont d'accord. Demande aux gens qu'est-ce qu'ils préféreraient. Demande aux gens qu'est-ce qui leur convient. » Non, déclare ces choses, affirme ces choses et enseigne-les. C'est-à-dire, dis-les et explique-les. Point. L'Église est un lieu où nous recevons, où nous sommes censés recevoir, de quoi grandir. D'ailleurs, c'est un problème. Si dans mon Église, je n'ai plus de quoi grandir, c'est compliqué. Nous devons être des personnes qui courent après l'enseignement de la parole de Dieu, chacun de nous. Et vous savez, je ne mens pas, j'aime écouter des prédications. J'aime être assis et écouter une prédication. Déjà parce que, voilà, hein, bon, oui. Mais aussi pour le bonheur d'écouter la parole de Dieu. Nous devons être des gens qui courent après l'enseignement de la parole. J'ai appris plein de choses à la formation sur le témoignage pour les musulmans que je ne savais pas. Nous devons être des gens qui aiment apprendre. Nous devons être demandeurs. Nous devons faire en sorte de retenir la parole. Nous devons prier pour les moments d'enseignement de la parole. Alors l'enseignement dans l'Église, c'est aussi l'enseignement individuel. Jésus n'avait pas que des moments avec tout le monde. Il avait des moments avec toute la foule, des moments avec les 12, et même des moments avec seulement 2 disciples. Jésus enseignait en public et en privé. Et l'apôtre Paul, dans Acte 20, dit qu'il fait la même chose. Il enseignait dans les églises, dans les maisons, mais aussi en individuel. L'enseignement dans l'Église, nous le trouvons aussi en individuel. Et c'est très important de se souvenir de ça. Je suis enseigné lorsque je rencontre un frère spirituellement plus mature que moi qui m'apprend à mieux comprendre la Bible. Parce que ma situation, je ne sais pas tout comprendre comme ça en dimanche, quand on parle généralement. Mais quand je vais voir Gino et que je lui dis « Gino, voici ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça ?» Eh bien, il peut m'expliquer par rapport à ma situation. Donc l'enseignement, c'est aussi un individuel. Et ça nous permet de grandir. Très important également, dans l'Église, l'enseignement passe par l'exemple des autres. Nous sommes enseignés par l'exemple que les autres nous donnent. Dans 2 Timothée 3, verset 10, par exemple, l'apôtre Paul dit « Tu connais mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité. » Il invite son fils Timothée à l'imiter. Dans la communion fraternelle, nous sommes aussi censés trouver des modèles. Dans notre Église, nous devons trouver des modèles. Pas un, des modèles. Telle personne qui m'inspire par rapport à la prière, telle personne qui m'inspire par rapport à la joie dans l'épreuve, une personne qui souffre et qui reste joyeux, ça m'inspire. Telle personne qui me fait grandir, l'exemple des autres nous fait grandir. Et c'est pour ça que nous devons multiplier les occasions d'être ensemble. Parce que plus nous sommes ensemble, plus nous pouvons trouver au milieu de nous des gens qui vont nous inspirer pour que nous puissions grandir. Ah, telle personne m'apprend la louange. Celui-là, quand il est dans la louange, il y est. Hein. Moi, je révolte un peu, mais lui, ah, ça m'enseigne quelque chose. Ah, telle personne qui m'apprend la miséricorde, parce que vraiment, c'est une personne. Et donc, nous sommes enseignés par l'exemple des autres. C'est très important et nous l'oublions très souvent. Nous avons besoin d'être mêlés dans la foule des autres pour trouver au milieu de nous des gens qui peuvent nous aider à grandir. Alors oui, frères et sœurs, nous sommes tous des étudiants. Peut-être que vous avez perdu votre carte d'étudiant. Si vous avez 20 euros, on peut vous en refaire une nouvelle. Mais en tout cas, si vous l'avez perdue, il faut essayer de la retrouver. Il ne faut pas dire « Oh non, moi, je ne sais pas, elle est au fond de mon sac, ça ne m'intéresse pas. » Non, parce que la vie chrétienne va te dégoûter à un moment donné. C'est pénible de venir au culte quand on n'apprend plus rien, on ne cherche plus rien, qu'on n'a plus soif de rien. C'est pénible. Parce qu'on est là, bon, ben voilà, ça va être encore la même chose, je n'attends rien. La vie chrétienne, à un moment donné, va devenir pénible. Si nous avons perdu notre carte, nous devons la retrouver. Et comme Jésus nous le dit, nous devons devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons devenir comme des petits-enfants qui veulent apprendre, qui veulent comprendre. Et papa, pourquoi ça? Et pourquoi on fait ça? Et où est-ce qu'il est, le bouton? Et comment ça marche? On doit devenir comme ça. Passionné d'apprendre, de chercher. À l'image du Seigneur Jésus, quand il est perdu à 12 ans par ses parents, on le retrouve au milieu des scribes et des docteurs en train de poser des questions, de s'instruire. Chacun de nous aussi, c'est notre appel d'être assoiffé, de grandir, assoiffé d'apprendre, pas seulement d'apprendre des choses à mettre dans la tête, mais d'apprendre également le caractère de Christ, la vie de Dieu, la prière, toutes ces choses. Eh bien, c'est notre appel à chacun d'entre nous. Amen.